Prisme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture.
Corrupsérisme ! Corps !
Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons prendre le train. Direction Saint-Lazare, éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît. Car Lazare ce n'est pas n'importe qui dans les évangiles, c'est un très proche ami de Jésus.
Avoir un bon copain. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde.
Un bon copain et la beauté de cette amitié va se révéler dans des moments de vie particulièrement critiques. On vous explique tout, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti! Pour comprendre l'amitié entre Jésus et Lazare et toutes ses conséquences, on se donne rendez-vous dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Voici déjà ce qu'on peut dire du personnage. Lazare est le frère de Marthe et Marie. Ils vivent tous les trois à Béthanie, juste à côté de Jérusalem. C'est un peu la banlieue. Lançons-nous dans la lecture du chapitre 11 de l'évangile de Jean, des versets 1 à 8.
Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?»
Arrêtons-nous déjà sur le début du texte. Première chose, Jésus n'est pas en Judée, et on comprend pourquoi des menaces se font jour autour de sa personne. On peut même parler d'un contexte explosif. Le Christ enseigne depuis quelque temps en Galilée, en Samarie et en Judée. Or, les autorités juives voient d'un mauvais œil la renommée qui entoure Jésus et le trouble à l'ordre public que ça génère. Et en effet, le palmarès n'est pas ridicule car en Jean 11, le Christ compte déjà à son actif un certain nombre de faits et gestes remarquables. Le changement de l'eau en vin lors d'un mariage à Cana, l'expulsion des marchands du temple, la multiplication des pains et l'épisode de la femme adultère, de quoi se faire remarquer. On comprend mieux les craintes des disciples de Jésus quand il annonce vouloir retourner en Judée. Deuxième chose, Jésus aime Lazare et ses sœurs, mais curieusement, il ne se précipite pas au chevet de son ami malade. Et là, on serait en droit de douter sérieusement de l'amitié de Jésus pour Lazare, mais Jésus, sans avoir vu le malade, se veut rassurant et qualifie cette maladie d'une façon étonnante. Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Jésus patiente donc deux jours avant de rendre visite à Lazare, et il fait même un peu de teasing auprès des disciples. Ça promet pour la suite.
C'est jamais quand tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous.
Rien de biblique chez Serge Lama, mais Lazare est malade et son ami Jésus n'est pas là. Ça ne fait pas deux ans, mais seulement deux jours que Jésus attend avant d'aller lui rendre visite. Est-ce que Jésus s'en fout? Pas sûr. Poursuivons la lecture de Jean 11, des versets 8 à 16.
Les disciples lui dirent « Rabbi, tout récemment les Juifs en Judée cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors « « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. »
Peu à peu, le texte nous dévoile pourquoi Jésus a attendu deux jours avant de se rendre auprès du malade. Lazare est mort. Jésus avait pourtant dit que cette maladie ne conduirait pas à la mort. C'est l'incompréhension qui règne. Et puis comment Jésus a-t-il pu laisser mourir son ami et même déclarer se réjouir d'avoir été auprès de ses disciples pendant le temps de sa maladie? On est loin des standards habituels de l'amitié. Au passage, on retrouve ici un quiproquo entre Jésus et ses disciples. En effet, les disciples se félicitent du sommeil trouvé par Lazare, tandis que Jésus utilise en fait l'image du sommeil pour évoquer la mort. Pour vous la péter au prochain dîner mondain, vous pourrez dire que c'est ce qu'on appelle l'ironie johannique, procédé littéraire qu'on retrouve très souvent dans l'évangile de Jean. Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Ce commentaire est aussi un bon moyen de mettre le lecteur dans la confidence. Poursuivons la lecture des versets 20 à 27.
Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. »
Sans surprise, Marthe, la sœur de Lazare, ne comprend pas non plus le manque d'empressement de Jésus. Selon elle, il aurait pu éviter la mort de son frère s'il n'avait pas lambiné pendant 2 jours. Certes, le propos de Marthe est un reproche, mais il dit aussi quelque chose de la foi de Marthe, qui croit Jésus capable de grands signes. Mais à bien lire ce passage, le point culminant de cette scène se trouve dans la parole que Jésus adresse à Marthe : « Je suis la résurrection et la vie. » Par ces mots, Jésus parle comme Dieu tel qu'il se révèle dans l'Ancien Testament. Il reprend la formulation « je suis » en grec « ego eimi » à l'image de la parole divine lors de l'apparition à Moïse au buisson ardent « je suis qui je suis » en Exode 3:14. Mais Jésus ne laisse pas seulement entendre qu'il est Dieu et qu'il est le même Dieu que celui qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Jésus réaffirme sa divinité et va joindre l'acte à la parole.
Well, when Jesus...
Les Voices of Jordan, dans la chanson Mary, Martha and Lazarus, reprennent textuellement des versets de Jean 11. Lazare, l'ami de Jésus, était malade, Jésus arrive finalement en Judée 2 jours après sa mort, Marthe lui reproche son absence, mais pose en même temps un véritable acte de foi en Jésus. Sautons quelques lignes pour reprendre du verset 30 à 32.
Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconforter, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Décidément, il pleut des reproches adressés contre Jésus. D'abord Marthe et maintenant sa sœur Marie. À la différence de l'échange avec Marthe, ici Jésus ne répond pas aux reproches de Marie. Ce qui prime à la lecture, c'est le contexte de deuil familial où la tristesse est immense. Mais poursuivons pour atteindre l'un des sommets de cet épisode, versets 33 à 35.
Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura.
Cet évangile offre un écrin à l'une des perles de ce texte que l'on remarquerait à peine en passant. Au verset 35, on note 3 mots, comme un éclair dans la nuit, « et Jésus pleura ». Il s'agit là du verset le plus court de tout l'évangile, 1 phrase et 3 mots. La brièveté de la phrase est inversement proportionnelle à l'ampleur de sa signification. Avec ce verset, on comprend que « Dieu fait homme » n'est pas stoïque. Et Dieu n'est pas indifférent à la souffrance, il pleure. Pour un lecteur de l'évangile de Jean imprégné de mentalité grecque, ce qui est sans doute le cas de beaucoup de lecteurs antiques de ce texte, c'est un petit tremblement de terre. le dieu des philosophes de la Grèce, est synonyme d'impassibilité, d'immuabilité. Pour être éternel, il ne faut être soumis à aucun changement, donc aucune passion, et donc aucune larme. Et voici qu'on leur présente un dieu ayant figure humaine, qui souffre et pleure devant la mort de son ami. L'américaine Riley Clements reprend le thème de Jésus qui pleure en Jean 11 avec son titre « Jesus Christ 2 ». Lazare est bien mort et Jésus le savait, pourtant, Jésus pleure. On continue la lecture des versets 35 à 40.
Et Jésus pleura. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte, fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là ». Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ».
Malgré les larmes de Jésus, on lui reproche encore sa passivité pour la troisième fois depuis son arrivée. Si le texte martèle clairement ce reproche pour la troisième fois, ce n'est pas un hasard. À cela s'ajoute Marthe, qui après avoir reconnu Jésus comme fils de Dieu, se remet à douter devant le tombeau. Et on peut le comprendre, dans ce passage de l'évangile, l'expérience de la mort atteint une sorte de limite extrême. Pour le dire crûment, le cadavre empeste, ça pue la mort. Au 1er siècle, les Juifs considéraient qu'à la mort, l'âme rejoignait le Shéol, sorte de lieu de résidence des défunts, et qu'au 4e jour, alors le corps entrait dans un véritable état de corruption, donc de décomposition. Dans ce contexte, ça n'est pas anodin que Jésus arrive au 4e jour après la mort de Lazare. Jésus a attendu la mort de Lazare et va attendre le véritable moment de corruption du corps, la vraie mort, pour agir. Lisons la suite au verset 41 à 44.
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. »
Voilà donc le dernier miracle, signe ultime et spectaculaire avant l'arrestation et la mort de Jésus. On voit ici que la résurrection promise par Jésus ne gomme pas les aspects les plus terrifiants de la mort physique, comme la corruption des corps ou le deuil des proches. Bien au contraire, c'est en assumant la réalité douloureuse de la mort que Jésus la transcende et réveille Lazare pour le ramener parmi les vivants. La certitude de la résurrection de Lazare, car Jésus sait que Lazare va revenir à la vie, n'empêche pas Jésus, Dieu fait homme, de pleurer devant le tombeau de son ami qu'il aimait. Le récit de l'évangile de Jean, sous des apparences de simplicité, cache des trésors de théologie. La puissance divine du Christ et son humanité passible de souffrance, et Dieu qui, en Jésus, a librement choisi de participer à la souffrance humaine. Après cette manifestation de son humanité, Jésus manifeste sa divinité en acte en ramenant Lazare à la vie. La tradition chrétienne a retenu cet épisode sous le nom de résurrection de Lazare. Mais est-ce vraiment une résurrection ? En grec, langue de rédaction des évangiles, le terme que l'on traduit en français par « résurrection » est « anastasis ». Littéralement, le terme signifie « relèvement », le fait de se remettre debout. Et c'est ce mot qu'on retrouve lorsque Jésus dit à Marthe « Ton frère se relèvera » anastisetai ou adelphos sou, autrement dit, si on surtraduit un peu, « Ton frère ressuscitera ». Ce mot, on le retrouve aussi lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » ego eimi et anastasis kai et zoé. Mais si on parle de l'action du Christ sur Lazare, il n'est en fait pas du tout question d'anastasis. Jésus lui dit « Sors, Lazare !» Lazare doiro exo. Et lorsque Lazare sort du tombeau, c'est encore le même verbe « sortir » au sens strict, comme l'indique le texte, il n'est pas question de résurrection. Dans la tradition chrétienne, c'est en fait carrément abusif de parler de la résurrection de Lazare. Pour le chrétien, la seule vraie résurrection digne de ce nom est celle de Jésus-Christ qui préfigure celle des autres. Elle est professée dans le credo. Ici, Lazare est sorti de son tombeau pour revenir à sa vie mortelle. D'ailleurs, même si l'évangile ne le dit pas, cela signifie que Lazare va mourir une seconde fois. Le mystère de la foi chrétienne repose en revanche sur la résurrection de Jésus, mort pour ressusciter, c'est-à-dire vivre de toute éternité dans un corps nouveau et glorieux qui ne connaîtra jamais la mort. Look up here, man. I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. En décembre 2015, quelques semaines avant de mourir, David Bowie sortait son titre « Lazarus ». Lazare, donc, comme le cri du cœur d'un homme qui se savait condamné par la maladie. Dans le clip, Bowie a d'ailleurs un bandage sur les yeux, comme pour rappeler le suaire et les bandelettes de Lazare. Lazare est finalement appelé par Jésus et sort de son tombeau, on serait tenté de dire « réanimé par Jésus », 4 jours après sa mise au tombeau. Finalement, le miracle du retour à la vie de Lazare est un moment décisif et crucial. L'évangile de Jean le présente comme l'événement qui précipite l'arrestation de Jésus, son procès par les autorités juives et la semaine qui le conduit à la mort sur la croix. Après ce dernier signe, certains juifs vont en effet aller trouver des pharisiens pour dénoncer Jésus. Et pourquoi cela? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Lisons les versets 48 à 50.
« Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. »
La phrase prononcée par Caïphe relève du pur calcul politique. Dans sa bouche, il s'agit seulement d'une cynique réflexion utilitariste façon Machiavel. Et là encore, l'ironie johannique vient se glisser. Caïphe soutient qu'il est de l'intérêt du peuple qu'un seul homme meure à la place du peuple. Or, effectivement, c'est vrai, il est de l'intérêt de tous que Jésus meure pour les croyants afin de les sauver de la mort et du péché et d'ouvrir la voie à la résurrection des corps. Pour le dire autrement, ce qui relève d'un sinistre plan de réal politique dans la bouche de Caïphe résonne en même temps comme une parole prophétique qui annonce la mort de Jésus pour sauver l'humanité. Ironie du sort et signe éclatant de ce qui survient par la suite, c'est par un miracle de retour à la vie que Jésus précipite sa mort, laquelle survient pour rendre possible sa propre résurrection. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'attraper votre train corail à la gare Saint-Lazare. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de faire tourner nos podcasts auprès des petits copains. Et puis, si vous avez des louis d'or sous la moquette, pensez à nous faire un don sur prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme et on se quitte avec Lonarita qui chante Snack Bar Gare Saint-Lazare. À très très vite.
Snack Bar Gare Saint-Lazare, quel bruit, quel tintamarre. Un type mange du homard. Moi je peux passer le coup de barre. Perché sur mon tabouret, j'attends mon pote Olivier qui va certainement s'amener si une autre pépé me l'a pas enlevé. Il est déjà moins le quart. Olivier est en retard. Je le retiens son rencard. Snack Bagarre Saint-Lazare.